Elizabeth Guskell, Mary Burton. Traduit par Mademoiselle Morel. Chapitre 1er. Il y a tout à côté de Manchester une plaine qui, sous le noir de Green Ace Fields, est bien connue des habitants de cette ville. Un sentier la traverse et conduit à un petit village éloigné d'environ 2 miles. Pas un accident de terrain, pas un bouquet d'arbres ne vient rompre la monotonie de ces terres basses et plates. Et pourtant, elle possède un charme incontestable que le montagnard lui-même est forcé de reconnaître et qui naît du contraste de la vie des champs avec ce mouvement affairé, le bruit et le fracas de la cité commerçante que l'on a quittée quelques instants auparavant. Ça et là, une vieille ferme aux bâtiments dispersés, aux murailles peintes de noir et de blanc, rappelle une époque déjà loin de nous et permet d'assister aux travaux de la campagne dont le spectacle a toujours pour l'habitant des villes un intérêt profond et mystérieux. L'artisan qui vient s'y reposer du bruit incessant des machines et des cris de la cité écoute avec délice les mugissements lointains du bétail, la voix des jeunes filles rappelant au soir les vaches que l'on va traire, et les gloussements joyeux de la basse-cour qui s'élève de la plaine au milieu du silence qu'elle anime. Il n'est donc pas étonnant que chaque dimanche, Green Ace Fields soit un lieu de rendez-vous pour cette multitude qui, toute la semaine, est enfermée dans les ateliers de Manchester. Et vous comprendriez que la foule se pressa plus qu'ailleurs près d'un certain échalier, s'il m'était possible de vous décrire le charme tout particulier de cet endroit. Auprès est un étang dont les eaux profondes et limpides reflètent le feuillage des arbres touffus qui se penchent sur ses bords et les couvrent de leur ombre. Ses rives escarpées s'abaissent et viennent par une pente insensible rejoindre l'une de ces vieilles fermes dont j'ai parlé plus haut. Un rosier couvre entièrement le portail de cette ancienne demeure, et dans le jardin qui l'entoure se trouvent pêle-mêle, déployant sans contrainte leur végétation luxuriante, des plantes et des fleurs, communes, il est vrai, mais parfumées, dont l'origine remonte à l'époque où ce jardin appartenait au seul droguiste du voisinage. Cette ferme et ce jardin sont environ à 100 pas de la barrière que j'ai signalée comme un endroit de prédilection pour la foule, et qui permet, en s'ouvrant, d'aller d'un vaste pâturage dans un pré plus petit, séparé l'un de l'autre par une haie d'aubépine, au pied de laquelle se trouvent des primes verts et parfois des violettes. Je ne sais pas si c'était un jour de repos accordé par leur maître ou si les ouvriers l'avaient pris au nom de la nature pour fêter la venue du printemps, mais toujours est-il qu'une après-midi du mois de mai, il y a de cela 10 ou 12 ans, jamais la foule n'avait été plus nombreuse à l'échalier des pâturages. Le matin, il était tombé une de ces tièdes ondées qui forcent les bourgeons à s'entr'ouvrir, puis un léger vent d'ouest avait chassé les nuages. Le soleil s'était montré, la vie tressaillait partout sous l'épiderme naissant, sous l'écorce durcie. Et le vieux saule, qui la veille encore mirait dans l'eau ses branches nues et brunes, avait pris ce vert tendre glacé de gris, dont la nuance indéfinissable s'harmonise si bien avec les premières teintes du printemps. De nombreuses jeunes filles, au rire sonore, à la voix haute, dont l'âge variait de 12 à 20 ans, arrivaient par bandes et traversaient la plaine d'un pas léger. Pour la plupart, employées dans les fabriques, elles portaient le châle que les ouvrières de cette classe mettent presque toutes quand elles sortent et qui se transforme, lorsqu'il fait froid ou que le temps est humide, en mantille espagnole ou en plaid écossais. Leurs traits irréguliers et flétris avant d'être formés, leur visage d'une pâleur maladive et généralement sans beauté frappait néanmoins l'observateur par une expression de finesse et de précoce intelligence qu'on a souvent remarquée parmi les ouvriers des grands centres industriels. Des gamins et des adolescents, ou plutôt de jeunes hommes, se mêlaient aux promeneurs, toujours prêts à échanger un quolibé avec le premier venu et cherchant à lier conversation avec les jeunes filles, qui s'éloignaient d'eux moins par réserve que par esprit d'indépendance. Ça et là, au milieu de cette foule bruyante, on distinguait deux amants qui se parlaient bas, sans rien voir autour d'eux, ou bien un mari et sa femme à accompagner de leurs enfants, le plus jeune porté par le père, et les trois ou quatre autres surveillés par la mère et trottinant auprès d'elle. Deux individus entre tous s'étaient rencontrés et salués amicalement près de l'échalier que nous avons déjà cité. L'un de ces hommes, véritable type de l'ouvrier de Manchester, né de parents qui avaient comme lui passé leur existence dans les ateliers d'une fabrique, était chétif et grêle. Sa taille, au-dessous de la moyenne, semblait n'avoir pu prendre tout son développement, et sa figure amaigrie, son teint décoloré, disaient assez les privations qu'il avait eues à supporter dans son enfance, quand le chômage ou l'imprévoyance réduisaient ses parents à la profonde misère qu'il lui fallait subir. Ses traits fortement accentués ne manquaient pas d'une certaine régularité, et sa physionomie, qui annonçait une volonté ardente, faisait pressentir en lui un enthousiasme sérieux, latent si l'on peut dire, aussi puissant pour l'entraîner vers le bien que pour le pousser au mal, suivant les circonstances qui pesaient sur sa vie. À l'époque dont nous parlons, c'était l'influence généreuse qui semblait prédominer en cet homme, et quiconque aurait eu besoin d'un service eût pu le lui demander sans crainte, presque certain de n'être pas refusé. Il était avec sa femme, dont l'incontestable beauté, malgré les larmes qui avaient rougi ses yeux et gonflé ses paupières, avait la fraîcheur et la simplicité qui caractérisent les jeunes filles de la campagne, et les font distinguer aisément au milieu d'une population manufacturière. Elle était dans un état de grossesse fort avancé, et le chagrin qu'elle paraissait avoir devait peut-être à cette circonstance de se traduire par des sanglots et des mouvements convulsifs qui n'étaient pas dans sa nature. L'ami que venaient de rencontrer ces deux personnes, plus grand et plus fort que celui dont il vient d'être question, et d'une sensibilité moins profonde, sans avoir moins bon cœur, témoignait par sa figure ouverte et souriante d'un caractère plus facile et surtout plus heureux. Il portait dans ses bras un tout petit enfant, et sa femme, qui l'avait accompagné, frêle créature, pâle et boiteuse, en tenait un autre du même âge, pauvre jumeau, qui avait hérité de la faiblesse de leur mère. « Eh bien, John, comment allez-vous tous ?» dit celui-ci, dont le joyeux visage prit en disant ces mots une expression affectueuse. « Avez-vous des nouvelles d'Esther ? » ajouta-t-il plus bas, tandis que sa femme, d'une voix douce et plaintive, adressait la parole à Mistress Burton, dont les pleurs redoublèrent. « Allons, femme, c'est assez loin pour vous, » dit John, sans répondre à la question qui venait de lui être faite. « Mary doit accoucher dans 3 semaines. Elle devient lourde. Et quant à vous, Mistress Wilson, vous êtes dans les patraques, même quand vous allez bien. Ainsi donc, asseyez-vous sur l'herbe. Elle est sèche. Et vous n'êtes pas de ces gens qui s'enrhument pour si peu. « Attendez, » continua-t-il avec bonté. « Je vais étendre mon mouchoir par terre pour que vos robes ne se gâtent pas. Les femmes tiennent tant à leurs habits. Et maintenant, donnez-moi le petit qui vous fatigue. Je le porterai aussi bien que votre mari, et nous nous promènerons pendant que vous causerez avec ma femme. Tâchez de la consoler, pauvre chère âme. Elle a pris ça trop à cœur, et je ne sais plus qu'en faire. » Il reçut l'enfant des bras de sa mère et sourit à l'innocente créature. Mais quand il eut fait quelques pas et tourné le dos à sa femme, tout son courage parut l'abandonner. Il baissa la tête et ses yeux s'assombrirent. « Ainsi, mon pauvre John, tu ne sais toujours pas ce qu'Esther a pu devenir, » redemanda Wilson avec un vif intérêt. « Non. Et je dis qu'on ne le saura jamais. On ne m'ôtera pas l'idée qu'elle est partie avec quelques muguets. Ma femme se désole et pense qu'elle a été se noyer. Je lui réponds que ce n'est pas pour s'aller jeter à l'eau qu'on met ses habits de fête. Et Mistress Bradshaw, sa logeuse, m'a dit que quand elle l'avait vue pour la dernière fois mardi dernier, Esther avait sa robe des dimanches, un ruban neuf et son chapeau, et des gants aux mains, tout comme une dame qu'elle aurait voulu être. Pauvre fille, une si jolie créature. Je ne dis pas non, elle était douce à voir, et ce n'en est que plus dommage, répondit Barton en soupirant. N'as-tu pas déjà remarqué la différence qu'il y a entre les filles du comté de Buckingham et celles de Manchester? Ce n'est pas ici qu'on trouverait ces joues roses et ces yeux bleus qui deviennent tout sombres sous leurs cils noirs comme les avait ma femme, et surtout la pauvre Esther. Jamais deux sœurs n'ont été si jolies. Mais à quoi bon? La beauté n'est qu'un piège. Esther en était si gonflée qu'on ne pouvait rien lui dire. C'était comme une soupe au lait, pour le moindre conseil. Ma femme avec ça la gâtait, parce que vois-tu, elle est bien plus âgée, et pour elle, son Esther, c'était tout comme sa fille. Aussi, je ne comprends pas qu'elle ait pu vous quitter pour demeurer chez d'autres. Eh bien voilà, c'est le malheur des filles dans les manufactures. Elles gagnent de quoi se faire belle quand l'ouvrage marche bien, puis après. Ma petite Mary n'ira jamais dans les fabriques. Je t'en donne ma parole. Pour Esther, comme pour bien d'autres, tout passait en chiffon. Elle croyait se faire valoir, tout comme si son minois eût eu besoin d'affiquer, et ça ne rentrait plus qu'à la nuit, et tous les soirs plus tard. Si bien que j'ai dit ce que j'en pensais. Ma femme a trouvé que j'avais des mots trop durs, mais je croyais avoir raison. J'aimais beaucoup la petite pour elle et pour sa sœur. Esther, que je lui disais, où ça te mènera-t-il? Voilà que tu as des bouquets sur la tête et des voiles, et tu sors à des heures où l'honnête femme est au lit. Tu deviendras une coureuse, une bonne à rien, folle de son corps. Mais rappelle-toi ce que je vais te dire. Tu ne saliras pas ma maison de ton déshonneur, et ma porte sera fermée, sans parenté qui tienne. C'est bien, qu'elle répondit. Je vous ôterai l'embarras. Je fais mon paquet et ne reste pas où l'on me traite de coureuse. Elle était rouge comme une cerise, et ses yeux lançaient des flammes. Mais quand elle vit pleurer sa sœur, tu sais que Marie n'aime pas qu'on se dispute à la maison. Elle courut l'embrasser, en disant de sa voix flûtée qu'elle valait mieux qu'on ne pensait, et que, bref, nous revoilà bons amis, car enfin moi je l'aimais avec son joli regard et ses rires, qui nous égayaient tous. Pourtant, elle finit par nous dire, et je pensais qu'elle était dans le bon sens, que nous serions meilleurs amis encore, si elle logeait en ville et qu'elle vint seulement nous voir. Ainsi, vous étiez bien ensemble. On avait dit que tu l'avais renvoyée, et que vous ne vous parliez pas. On vous fait toujours 100 fois pire que vous n'êtes, reprit Barton avec humeur. Elle revenait souvent à la maison depuis qu'elle l'avait quittée. Lorsqu'il y a eu dimanche, 8 jours, ma foi non, c'est dimanche dernier, elle vint le soir prendre le thé avec nous, et c'est la dernière fois que nous l'ayons vue.
Y avait-il quelque chose dans sa manière qui vous parut changer?
Je ne pourrais pas trop dire, et pourtant je l'ai trouvée moins rieuse, et comme plus douce, plus raisonnable. Il était à peu près 4 heures quand elle entra. Elle défit son chapeau et le pendit à sa place, un vieux clou qu'elle avait pris pour ça quand elle vivait chez nous. Elle s'approcha de sa sœur qui souffrait et se mit à causer, riant et pleurant tour à tour, mais si doucement, si gentiment, que je n'avais pas le cœur de lui rien dire. Je me souviens seulement qu'elle prit ma petite Mary par la taille. Et quand est-ce que tu ne diras plus « ma petite Mary » en nous parlant de ta fille? Sais-tu qu'elle est grande et belle à présent, comme on peut le voir aujourd'hui? Interrompit Wilson. Bien, bien, je l'appelle petite pour la distinguer de sa mère, qui se nomme aussi Mary. Je disais donc qu'elle prit l'enfant par la taille et que, de sa voix caressante, elle lui dit tout en la câlinant. « Que penserais-tu, Mary, si un jour je t'envoyais chercher pour faire de toi une belle dame? » Je n'ai jamais pu souffrir cela, et c'est moi qui ai répondu. « Il vaudrait mieux te taire, lui ai-je dit, que de fourrer de pareilles sottises dans la tête d'une brave fille. J'aime mieux lui voir gagner son pain à la sueur de son front, comme dit la Bible, et qu'elle n'ait jamais que du pain sec, entends-tu, que de la savoir une lady ne faisant rien, passant la matinée à tracasser les marchands dans leurs boutiques et les après-dîners à taper sur un piano, sans jamais rendre service à personne avant d'aller se coucher. « Tu n'as jamais aimé le beau monde, » dit Wilson, que la colère de son ami faisait sourire. « Eh, je te demande ce qu'il m'a fait pour que je l'aime, » répondit Barton, dont les yeux étincelèrent. « Quand je suis malade, est-ce qu'il vient me soigner? Quand mon enfant est là, mourant devant moi, comme j'ai vu le pauvre Tom, me demandant avec ses lèvres blanches un morceau de pain que je ne pouvais lui donner, le beau monde m'apporte-t-il du pain et du vin qu'il faudrait pour sauver mon enfant? Si je reste sans ouvrage pendant plusieurs semaines, et que l'hiver nous arrive, qu'il gèle dur, que le vent d'est passe à travers les murailles, sans qu'il y ait de charbon dans ma grille, de couverture sur mon grabat, et qu'on voit sous mes haillons mon pauvre corps dont on compterait les os, le riche vient-il partager avec moi sa richesse, comme il le devrait, s'il croyait à sa religion, dont il fait tant de parades? Mais quand je serai mort, et que Mary, pauvre femme, se désolera dans sa misère, est-ce une grande dame qui l'emmènera dans sa maison et la gardera près d'elle, jusqu'au jour où la veuve pourra songer à vivre et savoir que devenir? Non, c'est le pauvre, et le pauvre seul, qui vient en aide aux malheureux. Et ne me redis pas cette vieille histoire que les riches ne savent pas nos misères. Car moi, je te répondrai que, s'ils ne les connaissent pas, ils devraient les connaître. Tant que nous pouvons travailler, nous restons leurs esclaves. C'est la sueur de nos membres qui fait toute leur fortune. Et nous vivons aussi loin d'eux que si nous habitions un autre monde. Ah oui, vraiment, il y a entre nous le gouffre qui sépare le mauvais riche de Lazare. Mais je sais bien qui, là-haut, aura la meilleure place, ajouta-t-il avec un rire sinistre. Très juste, dit Wilson. Et tout cela peut être vrai. Mais ce que je voudrais savoir, c'est à propos d'Esther. Eh bien, dimanche au soir, elle nous a quittés de bonne amitié, en embrassant ma femme et ma fille, et en me serrant la main, si bien que nous n'y avons pas fait attention. Mais dans la soirée du mercredi, entre chez nous Mr. Bradshaw, portant la malle d'Esther, suivi de Mistress Bradshaw, qui en avait la clé. On commence à causer, et nous apprenons qu'Esther leur a dit la veille qu'elle revenait loger avec sa sœur, et que pour son coffre, on pourrait la porter quand on en aurait le temps. Mistress Bradshaw croyait donc la trouver avec nous, et ma femme, entendant cette histoire, est tombée comme une morte, en poussant un grand cri. Mary a couru chercher de l'eau pour sa mère, et moi, tout occupé de ma pauvre femme, je n'en ai pas demandé davantage. Le lendemain, pourtant, je suis allé dans le quartier des Bradshaw. J'ai parlé aux voisins, personne ne l'avait vu, et ne pouvait m'en rien dire. J'étais trouvé un agent de la police, un brave homme à ce que je sais, mais que je ne fréquente pas à cause de sa livrée. Je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à savoir quelque chose au sujet de ma belle-sœur, qui se trouvait comme perdue. Il a fait des questions à tous ses camarades, et l'un a répondu que le mardi, vers 8 heures, une jolie fille qui ressemblait à notre Esther marchait très vite, avec un petit paquet sous le bras, et que près d'Ulmchurch, elle était montée dans une voiture de louage. Il n'en savait pas le numéro, et tout s'est borné là. J'en suis fâché pour Esther, qui, d'une façon ou de l'autre, ne pourra qu'en souffrir. Mais c'est ma pauvre femme, surtout, qui me fait grand-peine. Elle aimait tant sa sœur, tout comme sa propre fille. Et d'ailleurs, depuis la mort de Tom, elle n'a plus rien valu. C'est égal, Mistress Wilson, en causant, lui aura fait du bien. Ah, si nous étions encore voisins, je te dirais, sois tranquille, ma femme ira chez vous, et la tienne ne restera jamais seule. Mais Alice est toujours dans la rue du Barbier, au numéro 14, où elle habite une cave. Tu n'as qu'un mot à dire quand tu voudras la voir. Et Dieu sait quelle bonne âme. C'est ma sœur, et peut-être ne devrais-je pas dire ça, mais je ne connais personne pour mieux vous obliger. C'est du cœur et de la main, et toujours en dépit de son ouvrage. Pas un enfant malade dans le quartier qu'elle ne le veille toute la nuit. Si lasse qu'elle ait pu être en revenant de sa journée. Sans compter qu'à 6 heures, il faut être à la besogne. Elle est pauvre, et a pitié des pauvres, Wilson. Merci bien de ton obligeance, et ta sœur nous rendra grand service en venant auprès de ma femme, qui pleure dès qu'elle est seule, en pensant à Esther. Une fois que je ne suis pas là, et que Mary est à l'école. Tiens, la vois-tu là-bas? S'écria John, dont la figure rayonna tout à coup en apercevant Mary au milieu d'un groupe de jeunes filles, charmantes enfants de 13 à 14 ans, qui accouraient au-devant de lui pour l'embrasser de tout son cœur. Les deux amis avaient franchi la barrière et Mary était restée près de la haie pour cueillir quelques boutons d'aubépine qui commençaient à paraître, quand un jeune ouvrier passa et lui prit un baiser. « Mary, lui dit-il, c'est un souvenir de notre vieille connaissance. » Elle devint toute rouge, plus de colère que de honte, et rendit un soufflet pour le baiser en répétant les paroles qui venaient de lui être dites. Sa voix fit retourner son père et Wilson, dont le jeune homme était le fils. « Allons, enfants, dit Barton, au lieu de vous embrasser et de vous quereller, prenez chacun de ces marmots, car si Wilson est comme moi, ses bras sont fatigués. » Mary prit l'enfant que portait son père et le couvrit de ses caresses, tandis que de son côté, Jem Wilson oubliait sa mauvaise humeur pour sourire à son petit frère.